לך נחלה וירשת ישבת בה. Donc le texte ici nous parle de l'entrée en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, c'est une des dernières choses qu'il va dire au Bnei Israël. Quand vous allez arriver en Eretz Israël, dans le pays qu'Hachem Elokecha noten lecha. Alors, il y a toujours ce problème de pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu dit ici, je ne sais pas répondre, hein, pourquoi Moshe Rabbeinu dit Hachem Elokecha. Il devrait dire Hachem Elokeinu. Le Kecha, c'est comme s'il s'excluait Hachem Elokeinu, il n'est pas Hachem Elokecha, ce n'est pas ton Dieu. Moshe Rabbeinu, quand il leur parle, vous arrivez en Eretz Israël, que notre Dieu vous donne, pas que ton Dieu te donne. Alors est-ce que c'est une façon de dire, moi il ne me le donne pas, puisque moi je ne vais pas entrer en Eretz Israël? Est-ce que c'est pour ça que c'est marqué toujours, c'est une relation Elokecha, au long de la paracha, dans toutes sortes de circonstances, c'est marqué Elokecha. Il y a toutes sortes d'endroits où c'est marqué Elokecha. On ne comprend pas très bien quand c'est Moshe qui parle, pourquoi il ne dit pas Elokeinu. Moi, je ne comprends pas très bien. Je vous dis éventuellement pour ça. Ici, c'est un peu facile peut-être de dire que c'est parce que lui justement, il ne va pas entrer en Eretz Israël. Donc, lui, on peut dire, Hachem ne lui donne pas, lui. Mais bon. Néanmoins, pourquoi dire Elokecha comme s'il s'en excluait? Et alors, après, il y a un problème. Dans le pasouk, c'est marqué Virishta. Tu vas en hériter. C'est quoi? Dans la Torah, c'est marqué que quand Hachem a promis à Abraham que Hachem lui a promis, je te donnerai la terre à toi et à tes descendants. Il lui a aussi dit le rishta pour en hériter. Ça fait pas double emploi, le zaracha et le rishta? Est-ce que hériter ou à ta descendance, est-ce que c'est pas la même chose? Alors, j'avais pensé, je sais, j'ai pas trouvé de quelqu'un qui parle de ça, j'ai peut-être pas bien cherché. J'aurais dit que quand on dit le Zaracha, c'est à toi et à ta descendance, alors on pourrait penser que ça veut dire je donnerai à tes descendants si tes descendants sont à la hauteur, s'ils se conduisent bien. Parce que Zaracha, ça ne dit pas du tout que obligatoirement, ça sera la troisième génération, la quatrième, ça peut être la 500e génération. Jusque-là, il n'y a aucune génération qui était à la hauteur, donc ils n'ont jamais reçu la terre, parce qu'ils n'étaient pas à la hauteur, et tout à coup, à un moment donné, ils sont à la hauteur, alors ils reçoivent la terre. Et ça, le Zaracha. Peut-être que Zaracha, ça veut dire je le donne à tes descendants s'ils sont méritants. Par contre, la notion d'héritage, elle n'a rien à voir avec le fait d'être un bon juif, quoi. Un apicores qui il hérite de son père, même s'il est apicores. Zaracha, c'est chez Abraham Avinu. Donc, au moment où Hachem lui a dit à Abraham Avinu, lui a donné, à plusieurs fois, c'est marqué de nouveau Zaracha, mais ça commence tout de suite, les Zaracha, à toi et à tes descendants. Je crois que c'est dans Bereshit Tet Vav Pasuk Zayin. Vous pouvez regarder là. C'est donc 15-7 dans Bereshit. Je vais pas dire combien je complet ici. Mais pas, vous pouvez vérifier. Vous l'avez? Donc, ceux qui ont un chumash complet, vous pouvez vérifier 15-7 de Bereshit. Il y a à la fois Zaracha et le Rishta. Alors, bon, c'est possible, mais par exemple, c'est un peu difficile de dire que je te le donne à toi, Abraham, en héritage. On peut dire que les descendants d'Abraham, on peut recevoir la chose en héritage, mais Abraham, il hérite de qui exactement? Donc c'est la notion de le rishta, si on disait pour le faire hériter, mais le rishta, ce n'est pas du tout faire hériter, c'est hériter de la terre. Ce n'est pas donner en héritage, ce n'est pas le père qui donne en héritage enfin, à son enfant. On parle de celui qui hérite. Et comment Abraham peut hériter? Ça n'est pas clair. Ça veut dire que le rishta ne veut pas dire obligatoirement héritage, parce que sinon ça ne marche pas. Bon, ça c'est juste une remarque. Mais ensuite, on dit, Velakarta mereshit kol pri ha'adama, tu prendras des prémices de tous les fruits de Adama, Asher tavi me'artzecha, tu vas devenir propre, tu amèneras de ta terre, la terre dont tu es propriétaire, Hachem, Hachem de nouveau, Hachem Elokecha, noten lach, le samta batene, tu mettras ça dans un panier, ve'alachta el hamakom, et tu iras vers l'endroit, le makom, Hachem yifchar Hachem Elokecha, shaken shmosham, à l'endroit où Hachem décidera de résider. Va résider son nom là-bas. Makom. Makom, c'est à la fois un nom divin, Baruch HaMakom, comme on dit dans la Haggadah, et HaMakom, c'est aussi le lieu de la résidence de ce nom divin. Makom, c'est Beth Amikdash. Uvata, donc tu iras là-bas avec ses fruits. Alors vous voyez, que on parle ici, El Hamakom, regardez Rashi. Qu'est-ce que c'est que ce Makom? On va voir plus bas que le mot Makom, un peu plus bas, c'est pas dans le Rashi ici tout de suite. El Makom, c'est Beth Amikdash. Alors, c'est très étrange parce qu'on dit, dès que vous allez arriver en Eretz Israël, vous allez faire cette mitzvah. Alors, en réalité, ce n'est pas du tout comme ça que ça se présente. Quand ils vont arriver en Eretz Israël, il va falloir d'abord conquérir la terre. Ça prend 7 ans. Ensuite, il y a 7 ans pour partager la terre. Et après, il faut planter, etc., pour que ça donne des fruits. Donc, ce n'est pas du tout immédiat. Moshe Rabbeinu nous parle d'une mitzvah qu'ils vont pouvoir pratiquer quand ils seront. Mais le quand ils seront ne veut pas dire. Dès que vous serez, parce que c'est pas possible, dès qu'ils arrivent en Eretz Israël, quand ils franchissent le Jourdain, on ne peut pas faire la mitzvah de. Et puis en plus, il faut le Beth Amikdash, et le Beth Amikdash, c'est encore des siècles plus tard. On va voir. Donc il y a toutes sortes de questions sur la façon dont cette mitzvah est présentée. Donc, tu vas, ou va-t-il la Cohen, Asheriye, Bayami, Vahem? Alors là, vous connaissez, tout le monde pose la question. C'est trivial. On ne peut pas aller chez le Cohen qui n'existe pas. Le Cohen qui aura ces jours-là, oui. Même si on dit que c'est le Cohen Gadol. Alors, tu vas chez le Cohen Gadol. C'est pas nécessaire, mais bon. Donc, le Cohen qui est en service de ton vivant. Tu ne peux pas aller chez le Cohen qui vivait il y a 150 ans. On ne peut pas aller aujourd'hui, si on avait le Beth Amikdash, on ne pourrait pas dire on va chez le Hafetz Chaim. Le Hafetz Chaim, il était le Cohen, mais pas le Cohen qui était de mon temps. Le Rashi, regardez Rashi. En lecha ela Cohen shibimecha kemoshehu. Qu'est-ce qu'on veut dire par là, le Cohen de ton vivant? C'est que tu peux te dire, mais finalement, le Cohen, là, il est pas du tout aussi grand à la hauteur des Kohanim, des générations précédentes, etc. Donc, moi, je voudrais pas, je vais pas aller chez lui. Parce que c'est un Cohen, mais c'est un petit Cohen, quoi. C'est pas le poids par rapport aux Kohanim des générations précédentes. Non. Comment chez vous? Le Cohen, même si ce Cohen-là, il n'est pas enthousiasmant, il fait pas le poids par rapport à ce qu'on raconte des Kohanim des générations précédentes. C'est quand même avec ce Kohen-là que tu vas faire la mitzvah. C'est un peu trivial, mais ça veut dire que tu peux pas, c'est de façon générale, on peut pas vivre avec ceux avec lesquels on n'est pas contemporain. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Vers Martha et Lav, et tu lui diras, et alors Rachid dit que vers Martha et Lav, tu vas lui parler, et c'est comme s'il y avait une introduction avant qu'ils disent quoi que ce soit, She'en Kafui Tova. Ça veut dire que tu n'es pas ingrat. Donc la démarche ici, c'est une démarche dans laquelle ce qu'il est important de voir, c'est que c'est de la reconnaissance. Je suis reconnaissant de ce qu'Hachem m'a donné. C'est une expression de la reconnaissance et il fait tout de suite une déclaration. Voilà, je viens raconter ça pour bien montrer que je ne suis pas Kafui Tova. Je vous rappelle que Kafui Tova, cette ingratitude, c'est la première chose qui est dite sur Adam Arishon. Quand Adam Arishon, quand Hachem lui dit pourquoi tu as mangé, il dit mais c'est la faute de la femme que tu m'as donnée. Alors Chazal dit, il était Kafui Tova. Hachem lui a donné une Ezer Kenegdo pour lui. Et maintenant, il dit, ben, si tu m'avais pas donné une femme, j'aurais pas fauté, quoi. Donc c'est tout de suite la première faute quasiment, c'est presque même plus grave que d'avoir mangé le fruit en question, parce qu'il y a des explications sur ça là-dessus, mais sur Kafui Tova, il n'y a pas d'explication. C'est la première mauvaise mida qu'on voit, si on peut parler comme ça, chez Adam Harishon. Donc c'est là on voit très bien, tu arrives en Eretz Israël, la première chose à faire quelque chose qui montre que tu n'es pas ingrat. Le problème de l'ingratitude, c'est fondamental. S'il y a ingratitude, ça disqualifie vraiment. Et tu vas lui dire, Igati Hayom l'Hachem Elokecha, je viens raconter aujourd'hui à Hachem ton Dieu, c'est toujours Elokecha comme toujours, oui. Kivati el haaretz asher nishba Hachem la'avotenu latet lanu. Voilà, je suis arrivé dans le pays qu'Hachem avait juré de donner à nos ancêtres. Il a juré à nos ancêtres qu'il allait nous le donner. Voilà. Mais alors, le Cohen, il va prendre le plat de fruits là qu'il a amené. Mizbach Hachem Elokecha. Littéralement, Vehinicho, ça veut dire il va le poser devant l'autel d'Hachem, ton Dieu. Mais le mot iniro, a priori, ça veut dire poser. Mais Rashi ramène, oui, iniro, pas du tout que il va le poser vraiment, mais il va le prendre de ses mains, les hanifoto, il va le balancer, il va le prendre des mains du propriétaire qui a amené les prémices de sa récolte. Le Cohen va le prendre de la main de propriétaire, ou plus exactement, Maniach Yado Tachat Yad Baalim. Le Cohen va mettre ses mains sous les mains de celui qui porte le plateau, et avec lui, ensemble, ils vont balancer les fruits, Pénif, devant le Misber. C'est ça qu'on appelle hinicho. Poser ici, ça ne veut pas du tout dire poser, mais ça veut dire balancer. Alors que le mot hinicho, il veut dire, il fait référence à quelque chose qui est complètement statique. Et au contraire, on dit, ben, il va balancer, donc c'est dynamique. Ve'anita ve'amarta lifnei Hashem Elokecha. Et tu vas, normalement, il aurait suffi de dire ve'amarta. Et tu diras devant Hachem ton Dieu, tu vas raconter à Rami Avedavir, il va revenir, qu'est-ce que c'est que ce mot Ve'anita? Alors Rashi dit, Ve'anita, ça vient dire qu'il faut parler à Ramat Kol, il faut parler à haute voix. C'est-à-dire, tu ne peux pas murmurer ce que tu vas dire devant Hachem, tu dois le dire à haute voix. Et tu diras quoi? Tu vas dire, Arami Oved Avi, l'araméen a perdu, au sens, il a tué mon père. Alors, de qui on parle ici, évidemment? On parle de Lavan. On parle de Lavan quand il a poursuivi Yaakov. Quand Yaakov est parti de chez Lavan, Lavan l'a poursuivi, il l'a rattrapé, et il est venu, il lui a dit, Yesh le'eliadi, j'ai les moyens de, etc., de récupérer, tout est à moi ici. Mais bon, j'ai les moyens, mais en vérité, mais j'ai les moyens, mais je ne peux pas parce que ton Dieu, il m'a dit, hier soir, il m'a dit, ton Dieu, il m'a parlé, il m'a dit surtout, ne fais pas de mal à Yaakov. Donc c'est marrant, il vient raconter, j'ai les moyens, et après il dit, ouais, mais en fait, Hachem m'a interdit. Mais alors, on a quand même un problème, c'est que c'est marqué Oved. C'est pas Arami Bikesh la bête. Il a voulu. Il n'a pas réussi. Pourquoi c'est marqué Oved Avi comme s'il l'avait fait? Alors regardez Rashi. Arami Oved Avi, Maskir Chasdei HaMakom. Il mentionne ici les bontés d'Hachem en disant Arami Oved Avi. Parce que Lavan, Bikesh l'a accordé à Kol. Lavan, il avait le projet de faire tout échouer. Que chez Radafachar Yaakov, quand il a poursuivi Yaakov. Ou Bishvin, Shechashav la Sot, Shavlo Agmakom, qui il ça. Parce que lui, il a eu le projet de le faire, Akadosh Baruch Hu lui a compté comme s'il l'avait fait. C'est-à-dire que bien que. Il n'a pas réussi à tuer Yaakov et à faire échouer le projet. Puisqu'il en avait le projet, Hachem pour les, chez Umot Haolam, Ovdei Elilim, les peuples qui sont idolâtres ou qui, Choshev Lahem, Akadosh Baruch Hu, Machshava, Kemaaseh. Akadosh Baruch Hu considère que leur pensée est équivalente à une action. Donc, bien qu'il n'ait fait que penser le faire, c'est considéré comme s'il l'avait fait. Donc, la Torah, elle écrit sur lui qu'il l'a fait. Vayered Mitzrayma, bon, alors ici, il y a un raccourci historique, parce que Yaakov n'est pas descendu en Égypte tout de suite, Yaakov est descendu en Égypte bien plus tard. Et Vayagar Sham, Bimte Me'at, Vayisham, etc., ça vous. Lisez ça et vous avez un goût de matzah dans la bouche parce que c'est le récit de la Haggadah. Ces psukim-là sont les psukim de la Haggadah. Enfin, ils viennent d'ici, hein, ils sont écrits d'ici d'abord et le Baal Haggadah, il les a mis dans la Haggadah. Ce n'est pas qu'on les a empruntés de la Haggadah pour les mettre ici. Donc, tout le texte ici va osciller jusqu'à Vayevienu El Hamakom Hazeh. Verset tête, il nous a amené El Hamakom Hazeh, nous a amené vers ce lieu-là. Et là-dessus, Rachid dit, Zé Bet HaMikdash. Donc, comme je vous ai dit, c'est très étonnant. On parle de la mitzvah, on la présente comme quasiment des premières mitzvot qu'il faut faire quand on entre en Eretz Israël, et il parle du Beth Amikdash. Il y a des siècles entre le moment où ils sont entrés en Eretz Israël et le moment où David Amel, enfin, ou à l'initiative de David, Shlomo Amelech a construit le premier Beth Amikdash. Et puis, il dit d'abord, il nous a amenés au Beth Amikdash, Vaïten lanu et haaretz hazot, eretz zavat chala vudvash. Et il nous a donné la terre, donc cette terre où coule le lait, et le miel. Mais il nous a d'abord donné la terre et après seulement le Bétamigdash. Pourquoi on cite d'abord le Bétamigdash et après la terre? Alors, il faut dire que ici, la citation, elle n'est pas, c'est pas chronologique, mais c'est selon l'ordre d'importance. L'important, c'est le Beth Amikdash. L'important, c'est la résidence d'Hachem. Eretz Israël, c'est en quelque sorte la banlieue du Beth Amikdash. D'ailleurs, en Kedusha, dans la Mishnah dans Kelim qui commence, qui énumère les 10 degrés de Kedusha, le summum, c'est le Beth Amikdash. Et dans le Beth Amikdash, le Kadosh Hashim. Eretz Israël, c'est ça plus de Kedusha que Chutz La'aretz, mais ça n'a pas la même Kedusha que le Beth Amikdash ou les parties du Beth Amikdash. Mais ici, ce qui est important, c'est qu'on est à l'endroit où Hachem réside. Les Bnei Israël habitent, en quelque sorte, dans les dépendances de la résidence d'Hachem. C'est ça qu'il faut reconnaître aussi à cet endroit-là. Et alors, il continue et il dit, Hine evetiet reshit priya adama, voilà, j'ai amené les prémices qu'Hachem m'a donné. Et puis, au milieu du discours, c'est marqué, Vi'inachto lifnei Hachem Elokecha, tu le poseras devant Hachem ton Dieu. Et de nouveau ici, Vi'inachto, c'est comme Vi'inichro, c'est toujours que il va balancer, continuer de balancer de nouveau ces fruits, et il va les tenir dans sa main. Tout le récit se fera avec le propriétaire, il fait le récit en tenant les fruits et en les balançant. Ensuite, tu te prosterneras devant Hachem, ton Dieu. Puis, une dernière chose que vous pouvez remarquer ici, Vesamarta bechol atov, et tu te réjouiras avec tout le bien qu'Hachem, ton Dieu, t'a donné à toi, à ta maison, au Lévi, à l'étranger qui vit avec toi. Et qu'est-ce que ça veut dire, tu te réjouiras? Comment est-ce qu'on peut prescrire de se réjouir? Ou plus exactement, comment est-ce qu'on s'acquitte de la prescription de se réjouir? Faut chanter, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut danser, c'est quoi se réjouir? Alors regardez ce que Rachid dit. De Samarta Becholatov, tu te réjouiras avec tout le bien, de tout le bien. Mikan Amrou, de là on a déduit, c'est-à-dire qu'il y avait un problème, comment on va interpréter ça? On ne peut pas appuyer sur un bouton, réjouis-toi. On peut dire à quelqu'un, tu manges, tu bois, tu te lèves, tu te couches, mais on ne peut pas lui dire, tu te réjouis. Ça veut dire quoi? En Korin Mikra Bikurim, on déduit de là que la lecture qui vient avec la lecture, c'est le texte qui dit, d'accord, Rami, Ovedavri, etc. Ce texte-là, on ne le dit, quand on amène les prémices, que pendant un laps de temps bien précis, c'est-à-dire que le temps où on amène les prémices est plus long que le temps où on amène et on raconte. Il y a un moment où on amène et on parle, on raconte, et puis il y a un temps où on amène sans raconter. Alors, quand est-ce qu'on amène et on corrige, on lit ce texte? Ela bisman simcha, à un moment où on est en joie. C'est-à-dire, la prescription, c'est pas tu seras en joie, mais tu vas utiliser le fait que tu es en joie. Pourquoi tu es en joie? Alors, le temps en question, le laps de temps, c'est entre Shavuot et Sukkot. Atzeret Adachad. Pourquoi est-ce qu'on est en joie à ce moment-là? Chez Adam, Melaket Tvuato, Perotav, Veyeino, Veshamno. Parce que c'est le moment où l'homme engrange. Il engrange sa récolte. Il engrange ses fruits, la récolte c'est les céréales, si vous voulez, les fruits, le vin, l'huile. Donc ça met en joie. C'est normal que quand quelqu'un il fait entrer le produit de son travail, voilà maintenant, il a tout le produit de son travail chez lui, devant lui, enfin, c'est réjouissant. Alors la Torah dit, c'est cette joie-là, qui est une joie qui vient de ton travail, de ce que tu bénéficies des fruits de ton travail, cette joie-là, tu vas l'investir en quelque sorte. C'est à ce moment-là, dans cet état de joie, que tu vas aller amener les bikourim, et à ce moment-là, tu pourras vraiment exprimer ta reconnaissance. De la même manière pour Sukkot. Pourquoi Sukkot est Zman Simchatenu? Parce que c'est, comme on a dit à Chag, c'est le moment où on a terminé de tout entrer. Tout est là. Et donc, on est en joie. Et la Torah, elle te dit, quand tu es en joie pour des raisons matérielles, alors utilise cette joie pour la mettre au service d'Hachem. Dans cet état d'esprit-là, sers Hachem. La mitzvah de Sukkot, elle se fait dans un état d'esprit qui vient de problèmes, enfin d'une réussite matérielle. Et on te dit, ne reste pas avec cette réussite, cette joie purement matérielle. Élève-la, utilise-la pour servir Hachem. Donc ça, c'est très important de savoir quand on te dit, tu dois te réjouir. Qu'est-ce que ça veut dire que tu dois te réjouir? C'est-à-dire, il faut que tu prennes les raisons, des raisons que tu as à te réjouir parce que tu as eu un enfant, parce que tu t'es marié, parce que tu as acheté une nouvelle maison, enfin, quoi qu'il en soit, tu as acheté une nouvelle voiture, je ne sais pas. Ce qui te met en joie, utilise-le pour l'élever et le mettre au service d'Hachem. Ça qui est demandé quand on nous parle de la Simcha. OK? Alors maintenant, on va voir ce qui est un peu plus bas, au verset Tet Zayin, au verset 16, de la Aliyah numéro 3, Shlishi. Le passage dit comme ça. היום הזה, השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. Littéralement, ça veut dire, ce jour-ci, Hashem ton Dieu t'ordonne de faire d'appliquer donc les chukim, les décrets en question, là, ces décrets-là, et les mishpatim, le shamarta ve'asita otam, et tu garderas et tu feras, on va expliquer ces termes, tu feras, pratiqueras, bechol levavcha ou bechol nafshecha, de tout ton cœur et de toute ton âme. Alors, le premier mot il pose problème. Ayom. Ayom azé, ce jour-là. C'est quoi ce jour-là? C'est quoi? C'est le jour où Moshe Rabbeinu nous parle? Rashi dit pas comme ça. Rashi dit, Ayom azé, Hashem Elokecha Metzavcha. Ce jour-ci, Hashem ton Dieu t'ordonne. Et Rashi dit, ce passou qui vient nous dire, Bechol yom yiyu be'enecha, c'est-à-dire, on parle ici de notre rapport avec les mitzvot. Tous les jours, les mitzvot doivent être vécues comme si elles étaient quelque chose de tout à fait nouveau. Je vais mettre aujourd'hui mes tefillin comme si je les mettais pour la première fois de ma vie. Je vais faire chaque mitzvah comme si c'était la première fois. Tu dois, ça veut dire, il va falloir, comment on fait ça? Pour l'instant, on n'a pas encore dit comment on le fait. Mais tu dois regarder les choses comme si effectivement, c'est aujourd'hui que tu viens d'en recevoir l'ordre. Pas seulement la première fois que tu le fais, mais c'est la première fois que c'est aujourd'hui que tu viens de recevoir l'ordre. Tu viens de recevoir aujourd'hui l'ordre de mettre tes tefillin. C'est comme ça que tu dois regarder chaque mitzvah. Ça, c'est Rashi. Rashi n'a pas voulu lire que Hayom Hazeh faisait référence à un certain jour, parce que c'est Moshe qui parle. Donc, Moshe parle à un certain moment, et il est en train de leur dire, le pshat, c'est ben, aujourd'hui, Hachem t'ordonne quelque chose. Mais cet aujourd'hui-là, c'est un jour. Sefer Dvarim, c'est le testament de Moshe Rabbeinu. C'est dans les derniers temps de Moshe Rabbeinu, un jour bien précis, à Yom HaZeh. Mais Rashi, il dit pas comme ça. Alors, on va regarder. On va regarder le Ramban. Regardez le Ramban, si vous avez le Ramban, je vais vous le lire. Hayom hazeh Hashem Elokecha metzavcha la'asot. Le Ramban dit, Hineh, voici, Ishlim Moshe leva'er et ha Torah. Moshe Rabbeinu, ici, il a terminé de clarifier la Torah. C'est-à-dire, ce jour-là, c'est un jour où Moshe Rabbeinu, il a fini le tour de l'enseignement qu'il doit donner concernant la Torah au Bnei Israël. Et donc, il a terminé. Le Chadesh Kol Mitzvah, Asher Tziva Oto Hashem, le Chadesh Lahem. Ramban dit, mon cher Rabbeinu, il a reçu des ordres d'Hashem et il a reçu des ordres d'Hashem d'être Mechadesh, de renouveler, d'amplifier ce qu'Hachem lui a dit pour les Bnei Israël. Moshe Rabbeinu doit faire un travail, le Chadesh, pour renouveler, c'est-à-dire ouvrir des pistes, des explications qui n'ont pas été toutes dites à Moshe Rabbeinu obligatoirement. Moshe Rabbeinu avait un travail à faire. Et maintenant, il a fini ce travail. Il a vraiment complètement déployé, si vous voulez, les mitzvot devant les Bnei Israël. C'est ça, ce jour-là. Et pourquoi est-ce? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est aujourd'hui qu'Hachem t'ordonne. Parce que le Kach Amar, c'est pour ça qu'il dit, Hayom hazeh Hashem Elokecha metzavcha la'asot et hachukim ha'ele v'et ha'mishpatim, ki kvar, alors le Ramban dit, ki kvar ishlamti lecha hakol, parce que maintenant j'ai terminé, je t'ai tout dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que jusqu'à présent, les Bnei Israël avaient reçu les mitzvot. Chaque mitzvah pour elle-même. Mais les mitzvot, elles prennent un sens différent quand on les voit comme étant une mitzvah parmi un ensemble de mitzvot. Les mitzvot, si vous voulez, elles se donnent du sens les unes aux autres. C'est pour ça que dans le limoud de la Torah, il y a sans arrêt des comparaisons. On va comparer cette mitzvah à cette autre mitzvah, et on va déduire, on va dire, voilà, cette loi-là qui s'applique ici, elle s'appliquera aussi là-bas. Tout ça vient de ce qu'on a un corpus de mitzvot, et en tant que corpus de mitzvot, chaque mitzvah est enrichie du voisinage de toutes les autres mitzvot, si vous voulez. C'est ça que moi je t'ai dit. Maintenant que je vous ai donné la totalité des mitzvot, alors vous pouvez comprendre chaque mitzvah différemment. Et donc, vous pouvez dire, maintenant, avec tout ce que je vous ai dit, c'est maintenant que vous recevez l'ordre concernant chaque mitzvah. Parce que jusqu'à présent, vous avez reçu l'ordre de la mitzvah pour elle-même, mais l'enrichissement qui vient à cette mitzvah de sa proximité avec d'autres mitzvot. Mais maintenant, voilà, la proximité, elle est là. Et donc, vous avez vraiment la mitzvah dans sa plénitude, avec toutes ses affinités avec d'autres mitzvot. Donc, pour Ramban, il s'agit bien d'un jour particulier. On n'en connaît pas la date, mais il s'agit d'un jour particulier qui est le jour où Moshe a terminé d'expliquer, d'enrichir les mitzvot qu'Hachem lui a ordonné de donner et qu'il lui a ordonné d'être Mechadesh aussi sur ces mitzvot. Alors le Ramban va continuer. C'est pour ça, Veshamarta Otam. Qu'est-ce que Moshe a dit en plus? Il a Yom Hashem, aujourd'hui Hachem t'ordonne. Et après, il ajoute, Veshamarta, Veasita, Otam. Alors, Veshamarta, Veasita, Otam, c'est deux choses. Veshamarta d'un côté, Veasita, Otam, tu vas les faire. Et on te dit de le faire ça, Bechol Levavcha, ou Bechol Nafshecha. Alors, il explique, Ramban explique, Vanefesh, Levavcha, Nafshecha, J'ai déjà expliqué, donc il fait référence à ce qu'il a dit dans Kriyat Shema, là-bas où on a déjà expliqué levavcha onavshecha. Donc il va pas réexpliquer l'investissement qu'on nous demande d'avoir dans ces mitzvot, du fait. Seulement, il n'a pas, enfin, du fait que maintenant on a la totalité en quelque sorte. Donc, il n'a pas expliqué en détail ce que veut dire le mot Veshamarta et ce que veut dire effectivement Vasita. Rashi sur Veshamarta Vasita Otam, Rashi avait dit Bat Kol Levachato. Là, il y a un balcon, il y a un écho, en fait, qui bénit en quelque sorte, qui amplifie Avad Bikurim Hayom. Ishanel Shana Abba. Donc, on parle ici d'un. Quelque chose qui va se faire par la suite, il y a à ce moment-là une bracha. Hachem donne une bracha à ce moment-là. Il y a une amplification de ce qui est de la mitzvah de Bikurim qui joue un rôle particulier ici, parce que c'est aussi la première mitzvah dont on nous parle ici sur. Dans la venue en Eretz Israël. Ça, c'est Rashi Ramban. On va voir maintenant le Or HaChaim. L'Or HaChaim commence par dire sur Hayom Hazeh, alors il s'étonne, il dit, mais la question que tout le monde pose, Vriayom ou Metsavé, est-ce que c'est aujourd'hui que les Bnei Israël reçoivent l'ordre? Alokvar Tziva Be'er Sinai. Les Bnei Israël, ils ont reçu les mitzvot au Sinaï. Donc c'est pas aujourd'hui, on est 40 ans après. Et donc, ils citent le Rashi. Et il dit, venirait, donc lui il propose autre chose, Shikamananta dit al Zéadérech, que le verset, il faut l'entendre de la manière suivante. Le fichier kol la Torah, Siva Ota Hashem Be'ar Sinai. Hashem a donné toute la Torah au Sinaï. Et il a donné, dans les mitzvot qu'il a donné au Sinaï, Ben Dvarim Sheyesh Ba'em Kumase Be'oto Zman, Ben Dvarim She'enam Mekumase Ela Lachar. Quand Hashem a donné des mitzvot, il y avait des mitzvot qu'on pouvait pratiquer immédiatement au pied du Sinaï, et des mitzvot que on ne pouvait pas pratiquer tout de suite, en particulier toutes les mitzvot qui dépendent des Eretz Israël. Évidemment, on ne pouvait pas les pratiquer tout de suite. Néanmoins, Hachem les a donnés quand même au Sinaï. Il a donné au Sinaï des mitzvot qu'on va pouvoir pratiquer seulement des siècles plus tard. Par exemple, les deux mitzvot, les mitzvot qui sont dites dans notre paracha, de Bikurim et de Maaser, Enam Noagim El Abaharet, c'est des mitzvot qu'on ne pratique qu'en Eretz Israël. Vetziva Hashem Otam, Agam Shiloyazmanam. Hashem les a ordonnés bien que ce ne soit pas au moment où il les a ordonnés un moment pour les accomplir. Il nous a donné un ordre et on ne peut pas le faire, on ne peut pas l'appliquer cet ordre. Alors, pourquoi est-ce qu'il a donné cet ordre-là? À quoi ça sert de nous donner au Sinaï des mitzvot qu'on ne pourra accomplir que quand on sera arrivé en Eretz Israël? Mitam, kidei l'ilmodotam. La raison, dit le Rahaim, c'est qu'il y a une mitzvah d'étudier ces mitzvot. Ou le kabel sachar al kabalatam. Et même pour recevoir un salaire du seul fait d'avoir accepté ces mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la mitzvah, quand elle est donnée, c'est aussi celle de la Torah. C'est aussi un sujet à étudier. Et donc, du coup, ça veut dire que la mitzvah, quand une mitzvah, en général, c'est il y a un acte à faire avec cette mitzvah. Mais l'acte, c'est seulement la prolongation, c'est la suite de l'étude. C'est-à-dire que la mitzvah, elle est donnée. Première chose, il faut étudier. Étudier la mitzvah. D'abord, étudier pour savoir quoi faire, comment faire. Et puis aussi étudier qu'est-ce qu'il y a, quel est le sens de cette mitzvah dans la mesure où on sait lui donner du sens. Et puis, si c'est possible d'en faire plus, si c'est possible d'en faire plus, alors on doit faire plus. Alors il faut passer à l'acte si on peut. Et si ce n'est pas aujourd'hui, peut-être on pourra demain. Peut-être qu'il faut des circonstances pour qu'on puisse le faire. Il y a des mitzvot qui sont circonstancielles. Il y a des mitzvot elles concernent quelqu'un qui doit donner. Quand il moissonne, il faut qu'il laisse un coin de son champ pour les pauvres. Mais si vous n'avez pas de champ, cette mitzvah ne vous concerne pas. Mais l'étude de la mitzvah, il vous concerne toujours. Étudier une mitzvah, donc, par exemple, toutes les mitzvot qui ont à voir avec le fonctionnement du Beth Amikdash, d'après le Rahaim, c'est les mitzvot qui sont là pour être étudiées. Et c'est tout ce qu'on te demande. Aujourd'hui, on ne te demande pas plus. Mais si un jour, quand le jour arrivera, tu pourras pratiquer ce que tu as étudié, tu auras l'obligation de le faire. Tu ne pourras pas te dire, te contenter, ben, moi j'étudie seulement. Non. Si tu peux l'accomplir, alors tu devras l'accomplir. Mais tant que tu ne peux pas l'accomplir, tu n'es pas vraiment en manque. Qu'est-ce qui t'est demandé? C'est demander d'étudier. Donc savoir, c'est quelque chose qui aura un effet sur toi. Tu vas en tirer des conclusions, éventuellement, tu vas tirer les conclusions qu'on peut tirer pour ta conduite quotidienne ou circonstancielle. Tu as une obligation d'étudier d'abord. Donc c'est très important que la raison pour laquelle on a reçu les mitzvot au Sinaï, alors qu'elles ne sont pas du tout opérationnelles à ce moment-là, c'est pour qu'on les étudie, parce que la mitzvah, elle ne se résume pas à pratiquer la mitzvah. La mitzvah, elle commence par étudier la mitzvah. Dans la mitzvah, il y a l'étude de la mitzvah d'abord. Ça, c'est une première chose. À part ça, le fait même qu'Hachem nous a donné cette mitzvah, on l'a acceptée, il y a une valeur du fait d'accepter. Quand j'accepte quelque chose, je m'engage. Il y a déjà une partie du travail qui est fait. Alors, je ne fais pas plus parce que je ne peux pas faire plus, mais il y a une valeur à l'engagement. Donc, cette idée que je me suis engagé à faire telle et telle mitzvah, même si cette mitzvah, je ne pourrais pas la pratiquer peut-être jamais dans ma vie, mais je l'ai acceptée comme mitzvah. Et deuxièmement, j'ai étudié, j'ai une obligation de l'étudier. Alors, mon cher ami nous leur a dit, Kihen ayom, aujourd'hui, Hachem leur ordonne de pratiquer ces chukim-là. Les chukim-là, en général, pratiquement tout le monde explique que il s'agit de bikurim et de maaserot. Mais d'un autre côté, il va parler des mishpatim, mais on ne sait pas de quel mishpatim il parle. Il n'y a pas de mishpatim qui ont été dit juste avant. Alors, il y a toute la Torah de mishpatim, mais de quel mishpatim il parle directement. Alors, ces mitzvot, c'est un bikurim ou maaserot. Jusqu'à présent, depuis le moment où vous avez reçu ces mitzvot de Bikurim et de Maaserot au Sinaï, vous n'aviez l'obligation que de les étudier. Mais maintenant, lui, il apprend comme ça. Et maintenant, vous allez entrer en Eretz Israël et ça va devenir concret. Et donc, Moshe Rabbeinu leur parle comme s'ils étaient déjà en Israël. Le Hayom, il dit le Hayom, c'est l'Av Dafka. Ce n'est pas vraiment aujourd'hui, mais c'est. Voilà, on est à la veille de l'entrée, de votre entrée en Eretz Israël, donc à la veille du moment où vous allez pouvoir faire plus que simplement que seulement les étudier, vous allez devoir les pratiquer. Et c'est ça, Hayom Hazé, pour le Or HaChaim. Le Hamec d'Avar, lui, il a sa lecture à lui de ce Hayom Hazeh. Alors il dit voilà, il cite Rashi, Yadua Adrash Chevi Rashi, on connaît la drasha que Rashi a amenée, dans laquelle il enseigne que les mitzvot, elles doivent être chaque jour complètement nouvelle à tes yeux. Mais bien sûr, c'est une dracha, mais le verset, il a un pshat. Et ce n'est pas le pshat du verset. Le verset, il parle de Hayom. Shemedaber beyichud beoto yom sheomed bo. Il parle du jour où il est en train de leur parler. Il parle de ce jour où je me tiens devant vous et je vous parle. Ou bah, est-ce qu'il dit ici à Yomazé, ça vient la fouquer, mais Az, ça vient dire que on n'est pas maintenant, je ne vous parle pas du moment où vous étiez chez Amdou à l'Ar Sinaï, à Yomazé. C'est-à-dire, il y a un laps de temps comme on a déjà vu pour chez les autres, chez Rambam, entre le Sinaï et le moment où je vous parle. C'est-à-dire, il y a eu le Sinaï et il y a 40 ans après. Maintenant, je suis en train de vous parler. Et donc, le sujet de cette paracha, dit le Siv, ou Hagdama, c'est une introduction, ou Biur, une explication, la Kritat Brit, Sheba Acharav, à l'alliance qui vient, qui va être dite après. Et l'alliance, c'est quoi l'alliance? C'est, comme vous savez, il y a dans le Parshat Ki Tavo, on parle beaucoup des klalot de Ki Tavo, des, ce qu'on appelle les malédictions de Ki Tavo, mais avant les malédictions en question, il y a des brachot. Donc, il y a des brachot si vous vous conduisez bien, et le contraire si vous vous conduisez mal. Et ça, ce sont les termes d'une alliance. Hachem dit, voilà, si vous conduisez bien, voilà ce qui va se passer. Si vous conduisez mal, voilà ce qui va se passer. Alors, c'est vu comme une, comme un bris, c'est vu comme une alliance. Hachem, puisque Hachem dit, voilà, voilà votre, vos obligations dans l'alliance et voilà les miennes. Si vous faites ce que je vous demande, alors moi je, c'est ça que je ferai. De la même manière, au Sinaï, le Sinaï c'était aussi une alliance. Parce que là-bas aussi, Hachem a dit, voilà, vous faites ça et voilà. Et donc, il y a ici une deuxième alliance. Cette alliance-là, elle est appelée Brit Shebe Arvot Moav. C'est l'alliance qui est dans Arvot Moav. Dans le territoire, si vous voulez, de Moav. C'est-à-dire quand on était en Galout. Et alors, cette alliance-là, Nitvasev bo inyan echad me'od na'ale al brit shebe'ar Sinai. Dans cette alliance-là, il y a quelque chose de très très élevé qui vient s'ajouter au contenu de l'alliance du Sinaï. Au Sinaï, on a fait une alliance, vous imaginez, c'était géant, quoi. Eh bien, il dit, il y a dans l'alliance de Arvot Moav, l'alliance qu'il y a ici dans cette paracha, l'alliance qui est faite au moment, à 40, à plus 40 ans, quelque chose de très très élevé. Et qu'est-ce que c'est? Aïnou, c'est-à-dire, Machenizaru Ata al Kidat la Torah, le Chadesh ba dinim, alpi klale la Torah vedikdukea, valiede mishpete al Talmud shilimed Moshe. C'est-à-dire que maintenant, dans cette nouvelle alliance, les Bnei Israël sont en charge de quelque chose dont ils n'étaient pas en charge jusqu'à présent. Au Sinaï, ils ont reçu les mitzvot, il fallait pratiquer les mitzvot, c'est tout. Le Sinaï, c'est presque, c'est une alliance avec des mitzvot. Et ici, l'alliance, elle a une autre dimension, pas très loin de ce à quoi a parlé de ce qu'on a un peu vu dans le Raïm, c'est que la nouvelle alliance, elle est comme la Gemara dans Sota, elle le dit, sur ses brachot et klalot, c'est l'ilmod ou le lamed, l'ishmor velaasot. C'est-à-dire, il y a une obligation d'étudier, d'enseigner de garder, je vais expliquer ce que c'est garder, et de faire. Donc ça, c'est nouveau. L'obligation d'étudier et d'enseigner, elle n'était pas visible d'après lui, elle n'était pas là dans l'alliance du Sinaï. L'alliance du Sinaï, c'est qu'il faut faire les mitzvot, c'est tout. Il y a des gestes à faire. Mais ça ne s'inscrit pas dans un processus d'étude. Et l'étude, elle n'a pas de sens si on n'enseigne pas. La Torah, elle doit être une Torah chesed, une Torah généreuse, le don, c'est-à-dire que celui qui peut doit enseigner. C'est pas une option. Tu dois enseigner à ta manière. Certains vont enseigner en écrivant, certains oralement, certains en montrant, etc. Mais on a une obligation, le lamed, d'enseigner. Celui qui étudie la Torah et qui la garde pour lui, il manque de chesed, c'est un défaut. Certains vont jusqu'à dire que c'est pas vraiment la Torah, parce que la Torah, elle est une Torah de chesed. Alors, il dit, j'ai déjà expliqué dans Parshat Achremot ce que chez Abiyur, al ze alashon lishmor. J'ai expliqué ce verbe ici de garder. Qu'est-ce que ça veut dire garder la Torah? Le shamarta, ça veut dire quoi? Ou l'iskor mashekvar lamat. C'est une obligation qu'on a de se souvenir de ce qu'on a étudié. Et la sotte, faire, c'est pas faire la mitzvah. Ici, la sotte, c'est le chadesh od. D'être mechadesh. Essayer d'être mechadesh. Essayer de renouveler, de donner, de rechercher un sens supplémentaire. Ou éventuellement, une façon plus subtile de faire les choses. Ça veut dire de façon différente de faire les choses. Prendre un exemple. Dans la Torah, on a une obligation de construire une souka, enfin de vivre dans une souka. On n'a pas de mitzvah de la construire, parce qu'elle est déjà construite, tu peux l'utiliser. Mais bon, le cas échéant, il faut éventuellement la construire. Et alors, la Gemara, dans Souka, elle envisage toutes sortes de cas, ou de cas tout à fait spéciaux, dans des conditions tout à fait spéciales de construction d'une Souka. Comment on construit une Souka dans un tas de foin? Comment on construit une Souka dans une lucarne? Comment est-ce qu'on construit? Tout ça, c'est étudié dans la. Tous ces cas de figure sont étudiés dans ma Masechet Souka. J'ai entendu d'un de mes maîtres qu'il y a une mitzvah en réalité de construire une souka dans laquelle il y ait le maximum de ces chidushim qui sont dits dans la Mishnah. Plus tu peux faire subtil, mieux ça vaut. Non, tout le monde ne peut pas. Il ne faut peut-être pas se lancer dans ce genre de truc, mais en fait, le mieux, c'est effectivement de faire avec tout ce que les Chachamim ont montré, toute le chidouche. C'est ça, le Chadesh, même dans la sotte, c'est-à-dire éventuellement trouver une façon encore plus subtile de faire les choses. Mais en tout cas, travailler pour renouveler, étendre, approfondir l'enseignement qu'on a. J'ai reçu un enseignement et il m'incombe d'essayer de l'approfondir, de le comprendre encore mieux, et éventuellement de trouver des choses nouvelles. Alors bien sûr, c'est pas n'importe quoi. Les choses nouvelles, il faudra qu'elles qu'elle passe la critique, évidemment. Critique de des gens qui connaissent la Torah. Gav, bien que, alors, lui, sur sa théorie, il dit, voilà, ça c'est nouveau, et ça n'existait pas dans le Sinaï. Dans le Brit Sinaï, il n'y avait pas cette dimension-là. Alors, il a cité une Gemara dans Sota, justement. Le problème, comme il dit lui-même, c'est que la Gemara dans Sota, après avoir expliqué tout ça sur le Brit de Arvot Moab, la Gemara dit Bechen be Sinaï. Il en va de même pour le Sinaï. Donc, toute sa théorie, pouf, par terre, puisque lui, il avait dit ce qu'on fait ici, ça concerne, c'était pas vrai au Sinaï. Alors, il va se rattraper. Il dit, ça, c'est pas vraiment difficile. Alors, que Moken, Itacham, la preuve qu'il faut pas prendre à la lettre, c'est que là-bas, dans la Gemara, dans Sota, il y a une dracha qui est faite sur les brachot et les klalot qui sont écrites. Alors ici, on va venir, il y a des brachot et des klalot dans Kitabo. Donc, dans ce brit-là, il y a explicitement écrit dans la Torah brachot, klalot. Au Sinaï, il n'y a pas brachot et klalot. Et pourtant, la Gemara, elle dit là-bas, dans Sota, elle dit Baruch Bichlal, Baruch Bifrat, Arur Bichlal, Arur Bifrat. J'ai remarqué que dans les brachot, il y a des brachot qui concernent les individus, il y a des brachot qui concernent le klal dans sa totalité. De même, même chose pour les Arur, il y a des malédictions qui concernent l'individu, et une malédiction qui concerne le clan en tant que tel. Et la Gemara là-bas, elle dit Rebbe Sinaï. Au Sinaï, il n'y avait pas de brachot et klalot. Bon, les mots ne sont pas mentionnés. Donc en vérité, ce n'est pas à prendre comme ça. Le Torah de Gzera Shava, l'amadnu. Chez Mikol Makom, Nichlal Gam, Beotoabrit, chez Bassinaï, Dvarim Elou. En vérité, on apprend que la Xera Shava qu'il y a entre la comparaison que fait la Gemara entre le Brit du Sinaï et le Brit d'ici, de Arvot Moav, à cause de ce qu'on appelle une Xera Shava, on transfère des dinim qui ne sont pas marqués à cet endroit-là, mais qui sont marqués à l'autre endroit, je les transfère. Ici aussi, c'était pas marqué ni brachot ni klalot, mais en vérité, c'est pas marqué, mais c'était le cas aussi au Sinaï. Donc ici aussi, il faut dire la même chose. Lishmor velaasot, ikar advarim nemru be'arvot Moav. Elles sont là au Sinaï, mais pas parce que c'est explicite, mais parce que ça vient de la Gzera Shava, de la comparaison, d'extension qu'on fait à partir du modèle Arvot Moab sur le modèle Sinaï. Ça, c'est le sens de Metzavcha la'asot et achukim ha'ele v'et ha'mishpatim. Quand le pasouk dit, quand Moshe Rabbeinu dit au Bnei Israël, il t'oblige, il t'ordonne la'asot achukim ha'ele v'et ha'mishpatim, shehu ha'amada al tachlit ha'ora. Que ici, le Passouk vient nous dire que tu es obligé d'enseigner, de diriger, d'enseigner. Beshamarta, le verbe Beshamarta qui est écrit là, Aïnou Mishnah. Beshamarta, c'est la Mishnah, comme c'est marqué dans Sifri. Et dans Maaseret Kiddushin, dans l'explication du mot Tishmerun. Alors, qu'est-ce que c'est que la Mishnah? La Mishnah, ici, dans ce texte, c'est pas le corpus de la Mishnah. L'appel Mishnah, tout ce qui a été étudié dans une certaine génération. Et voilà, la génération est arrivée à une certaine formulation des choses, et elle l'a transmise à la génération d'après. Alors, la génération d'après, pour elle, l'enseignement qu'elle a reçu de la génération précédente, ça qu'il appelle Mishnah. Mishnah, c'est ce que je reçois, que je dois assimiler, comprendre complètement, et à partir de quoi je peux être Mechadesh, à partir de quoi je vais apporter ma contribution, je vais ajouter à ce qu'ils avaient, eux, fait. Mais d'abord, je dois complètement l'intégrer, le comprendre jusqu'au bout, mais il y a la nouveauté, le Chadesh, qui est le fameux Lahasot, qui vient après le Shamarta. Le Shamarta, ça veut dire tu garderas l'enseignement de la génération précédente, tu vas le garder, tu vas le garder de toute influence, etc. Tu vas en faire le tour, tu vas l'assimiler, etc., pour que tu puisses par la suite ajouter. Et cette explication-là du mot Mishnah, il l'a prise dans l'introduction au commentaire de la Mishnah du Rambam. C'est ce qu'il dit ici. Et c'est aussi ce que dit la Gemara, ce qu'avait dit la Gemara dans Eruvin. La Gemara là-bas, elle parle de David HaMelech. Elle parle des chidushim, des nouveautés que David HaMelech avait développées dans sa façon de gouverner, de décider. Et ça, il avait, comment est-ce qu'il a inventé de nouvelles choses? Hakira ve'iyun Talmud, Nasi Mishnah. Parce qu'il a été roker, il a fait des recherches, il a beaucoup réfléchi. Et donc, son enseignement est devenu quasiment une Mishnah pour la génération d'après. Et ensuite, le pasuk dit, va sita otam. Tu vas les faire. C'est-à-dire, l'osif, l'arkor, tu vas devoir continuer, ajouter, creuser encore pour arriver à une autre éventuellement formulation plus précise, plus détaillée. Et ça, c'est le Talmud de chaque génération. Chaque génération a une obligation d'écrire un Talmud par rapport à ce qui a été écrit dans la génération précédente. C'est la théorie de Emek Davar, du Netziv. C'est un chidouche, quoi. Mais c'est très intéressant de le lire comme ça. Alors, qu'est-ce que veut dire Bechol Levavcha? Bechol Cheshek Alev. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un Cheshek, une envie. Tu vas faire ça avec envie. Tu vas t'investir avec envie. Il faudra des sacrifices aussi. Il dit que ça fait partie de. Ça fait référence à la Gemara dans le Sefer Shabbat. Il dit que la Torah mitkayemet alea. La Torah, elle ne tient chez quelqu'un que s'il s'investit complètement. Il y met son âme. Ça, c'est un verset. Et ensuite, il vient un verset très célèbre, mais qui est difficile. Le pasouk dit au pasouk Yud Zayin, Et Hashem he hayom, liot lecha lelokim, velalechet bidrachav, velishmor chukav, umitzvotav, umishpatav, velishmor bekulo. והשם האמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך ולשמור כל מצוותיו. ou le titre Elion al Kol Hagoyim Asher Asa, le Tehillah, ou le Shem, ou le Tifaret, le titre Am Kadosh, la Shem Elokecha, la Asher Diber. Et donc il y a ici, He'emarta, et Hashem He'emarta, d'un côté, et Vashem He'emircha. Ces deux mots, He'emarta, He'emircha, Rashi dit, En la'em ed mochiach bamikra. Il n'y a pas d'autres exemplaires de ces mots dans toute la Torah. Et par conséquent, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Alors Rachid dit, Velinire, moi, dit Rachid, il me semble, Sheulachon Afrasha Vehavdala, c'est un lachon de Afrasha et d'Avdala, de mise de côté et de séparation. C'est-à-dire, il faut le lire comme ça. Ivdaltilcha me Elokea Nechar, Liot lecha l'Elokim. Hachem dit, je me suis séparé pour toi de tous les faux dieux, vos dieux étrangers, pour être pour toi, pour jouer pour toi le rôle d'Elokim. Vehu, et Hachem, lui, et il t'a séparé. Et il t'a amené à lui. Séparé, mais amé Haaretz, des autres peuples de la terre. Liotlo Leamsgula, pour être son peuple, son trésor, peuple trésor. Ça, c'est le pshat de Rashi. Il dit qu'il a trouvé un peu d'appui. C'est la chaîne de Tiferet. Bon, il amène un passouk dans Tehilim là-dessus, on ne va pas rentrer là-dessus. Alors, ah, excuse, je n'ai pas terminé. J'ai encore ajouté. Bon. Non, non, ça peut aller. Voilà. Donc, ça, c'est ce que dit Rashi. De quoi on parle ici? On parle de quelque chose qu'on a déjà vu dans les parchiotes antérieures, où Hachem a dit au Bnei Israël, si vous faites ce que je vous demande de faire, alors je jouerai pour vous le rôle d'Elohim. Et je vous prendrai comme mon peuple. Vous serez le peuple d'Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire? On a déjà, je répète, je crois que je l'ai déjà dit, mais bon. Tous les peuples ont un Dieu. On écrit dans la Torah qu'on parle des dieux de l'Égypte, qu'Hachem a brisé avant de se faire sortir les Bnei Israël d'Égypte, etc. Tous les peuples ont un Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un Dieu, le Dieu des peuples? Vous savez, Elohim, la gématria d'Elohim, c'est Ateva. C'est la gématria de la nature. C'est-à-dire les règles de la nature. Donc, Elohim, c'est la rigueur, ça veut dire c'est des lois. C'est les lois. Alors, dire que chaque peuple a un Dieu, c'est-à-dire que chaque peuple a des lois internes. C'est quoi ces lois internes? C'est que les bontés d'Hachem, elles arrivent dans le monde, elles sont reçues par chaque peuple de manière différente. Chaque peuple les reçoit comme il peut les recevoir, si on peut parler comme ça. Et la façon qu'il a de les recevoir, la possibilité qu'il a de recevoir de telle ou telle manière, c'est ça le Dieu du peuple. Et si vous voulez une définition plus facile. Moi, personnellement, je considère pour l'instant que ça, c'est la culture de chaque peuple. C'est-à-dire que ce que Hachem donne à chaque peuple, le peuple en question le reçoit selon sa culture. La culture d'un peuple, c'est la langue qu'il parle, c'est la nourriture, c'est le climat qui est le sien, c'est la façon de s'habiller, c'est la façon de manger, c'est la façon de les relations entre les hommes et les femmes. C'est tout ça qui est, c'est la musique, c'est la danse de chaque peuple, c'est peut-être la poésie spécifique de chaque peuple, etc. Chacun reçoit à sa manière, qui est exclusive. Chacun a des choses qui, aux yeux des autres, c'est débile. Aujourd'hui, aux États-Unis, le camarade Trump, il a parlé des gens qui bouffaient les chiens et les chats dans l'Ohio, etc. Bon, c'est un scandale, mais enfin, tout le monde sait qu'il y a des pays dans lesquels on mange du chien. Et les Anglais, ils appellent les Français des bouffeurs de cuisses de grenouille. Et les Français, ils les appellent les Anglais. Ils ont dit qu'ils devraient avoir honte avec leur pudding, mais je ne sais pas comment c'est. Chacun a ses. Et on a, il y a les danses de. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de. Il y a beaucoup d'exotisme. On mange des trucs qu'on n'a pas l'habitude de manger. On danse des danses. On a que leurs ancêtres n'ont jamais dansé, etc. Voilà, ça, on chante des chants, de la musique qui est spécifique. Mais au fond, chacun a sa manière de ressentir les choses. Ça, c'est la divinité de chaque peuple. Les seuls qui n'ont pas de Dieu, c'est les Bnei Israël. Nous, on n'a pas de Dieu. Ça veut dire qu'on n'a pas de divinité intermédiaire qui traduit dans un langage acceptable pour le peuple ce qu'Hachem donne. Comme si chacun avait un espèce de tuyau par lequel il peut recevoir, il laisse passer certaines choses et pas d'autres, etc. Et les Bnei Israël, ils n'ont pas ça. Les Bnei Israël, ils sont en prise directe sur Hachem. C'est ce qu'Hachem leur a dit. Si vous vous conduisez bien, alors je jouerai pour vous le rôle de Dieu qui s'occupe particulièrement de vous. Comme le Dieu de chaque peuple s'occupe particulièrement de ce peuple, moi je vais m'occuper, bien que je sois Elohim du monde entier, de l'univers entier, je vais m'occuper de vous. À condition que vous jouiez votre rôle, vous fassiez ce que je vous ai demandé de faire. Et de la même manière, comment est-ce qu'un peuple peut être considéré comme le peuple d'Hachem? Ça veut dire le peuple d'eux. Ça veut dire c'est un peuple où si tu regardes comment ce peuple se conduit, tu vois ce qu'Hachem voudrait de la conduite qu'Hachem voudrait d'un peuple. Personne n'est à la hauteur. Hachem dit, si vous faites ce que je vous ai dit de faire, alors vous serez mon peuple. Vous deviendrez mon peuple, le peuple d'Hachem. Et par conséquent, comme c'est le peuple d'Hachem, je vais m'en occuper. Vous m'occuperez de vous pendant la guerre, je m'occuperai de vous pour l'appui, je m'occuperai de vous pour votre nourriture, etc. Je vais vous prendre en charge. Et c'est ça qui est dit ici. Hachem dit, je me suis singularisé pour vous, pour jouer le rôle d'Elohim. Si vous voulez, c'est pas normal, en fait, si vous parlez comme ça, qu'Hachem soit Elohim. Parce que quand on dit qu'il est notre Dieu, on entend qu'il n'est pas le Dieu des autres. C'est pas vrai, bien sûr qu'il est le Dieu des autres. Mais nous, il s'occupe de nous en particulier. Et les autres, ils s'occupent d'eux en général. Mais nous en particulier. Et c'est peut-être ça, là. Peut-être que s'il faut lire, par exemple, quand on dit dans Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, certains disent, comme ça, ils disent, mais Hashem Elokeinu et Hashem Echad, c'est deux dieux différents. C'est pas vrai, c'est tous les noms divins ne sont que des anagogues d'Hachem. De façon dont nous percevons qu'Hachem se conduit à notre égard. On perçoit qu'Hachem est sévère, on perçoit qu'Hachem est généreux. Mais Hachem, il est ni sévère, ni généreux, on peut rien dire, il est rien, on peut rien dire du tout. Même qu'il est rien, on ne peut pas le dire non plus. Donc, on peut rien dire du tout d'Hachem. Donc, c'est un abus de langage quand on dit qu'il est quel, Rachum, Hanoun, etc. Il y a un peu d'abus de langage, mais il faut l'entendre. C'est comme ça que nous le recevons. Si vous voulez, beaucoup de choses à la fois, mais le mot Echad, Moussa Gematria, c'est 13. C'est pour ça qu'il y a les Shloshesre Midot de Rachamim, les 13 Ikarim, etc. Et Echad, c'est 13. Et donc, il y a d'une certaine manière, le 1 s'exprime, quand tu veux l'exprimer, tu es obligé de prendre le mot Echad qui vaut 13. On ne peut pas dire le 1 avec un 1 comparable au 1 qui caractérise Hachem. Ça n'existe pas. Parce que on est dans les mots. Et les mots, c'est fait pour la communication des êtres humains entre eux. Les mots, ils ne sont pas faits pour parler d'Hachem. Et donc, c'est à chaque fois des abus de langage. Il faut faire attention que ne pas oublier que c'est un abus de langage. Donc, peut-être quand on dit par exemple Hachem Elokeinu, Hachem Echad, c'est comme si on disait Hachem accepte d'être Elokeinu, mais néanmoins il est Echad. Parce qu'en acceptant d'être Elokeinu, ben, ça veut dire, ça fait apparaître, le fait apparaître. Comme Elokeinu et pas Eloke, l'Égypte, etc. Mais non, n'oublie pas, il est néanmoins Echad. Ce privilège que nous avons, qui est dit ici dans ce passage, où Hachem a décidé de se comparer, de se séparer, ça veut dire, quand vous dites, quand nous disons, pardon, quand nous disons Mi Chamocha Ba'elim Hashem, quand j'étais plus jeune, je ne comprenais pas comment on pouvait faire cette comparaison. Mi Chamocha. Qu'est-ce qu'on compare? Ne peut pas comparer. Est incomparable. Ok, mais si c'est incomparable, alors tu ne peux pas le dire. Alors, ici, il dit. Parmi les autres peuples, parmi les autres dieux, il y a des dieux. Et pour toi, je joue le rôle de ce que jouent ces dieux, mais je me suis séparé pour toi quelque part. Je fais quelque chose tout à fait anormal, si on peut parler comme ça, en étant ton dieu. Et du coup aussi, toi, tu es mon peuple. Et parce que tu es mon peuple, a toutes sortes de privilèges. Le fait que les bénis Israël soient le peuple, alors c'est marqué, le titre Elyon al kol hagoyim va être au-dessus de tous les autres peuples, le Tehila, le Shem, le Tiferet, Am Kadosh v'Hashem Elokecha, un peuple saint pour Dieu, Kadosh pour Hashem ton Dieu. Tout ça, dit Moshe Rabbeinu, c'est arrivé, c'est maintenant. Maintenant. Parce que maintenant, vous acceptez. Maintenant, je vous donne les ordres et je vous dis, je vais être votre Dieu et vous serez mon peuple. Mais il faut que vous fassiez ce que je vous dis de faire. C'est ça que nous dit au début la paracha de Kitabo. Voilà. Ça a été.
Schroyer, merci beaucoup, Rav.
Merci, Rav.
Merci,
Bonne voir. Good, Shabbat.
Monsieur, monsieur.